sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 14 mars 2012, le cinéaste et écrivain Pierre Schoendorffer nous quittait. Il était membre de l'Académie des Beaux-Arts, où il avait été élu en 1988 dans la section « Création artistique dans le cinéma et l'audiovisuel ». Il avait succédé à l'architecte Guillaume Gillet. Pierre Schoendorffer, dont le nom en alsacien signifie « le beau villageois », est un cinéaste mythique. De la 317e section à L'honneur d'un capitaine, son chef-d'œuvre reste Le crabe tambour, qui avait été tiré d'un de ses propres livres, couronné par le Grand Prix de l'Académie française. Il avait donné à Canal Académie plusieurs interviews que vous pouvez réécouter et télécharger, notamment sur sa découverte de l'Amérique. Nous vous proposons ici de l'écouter lorsqu'il avait accueilli, selon l'usage, par un discours de réception, le 15 octobre 2008, son nouveau confrère Yann Arthus Bertrand, entré sous la coupole grâce à Canal Académie.
Mon cher Yann Arthus Bertrand, mon cher confrère, je vous remercie de m'avoir invité à vous recevoir, à vous installer, comme nous disons, dans votre fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Sous cette prestigieuse coupole qui, et ça n'aura pas échappé à votre œil de photographe, est ronde à l'extérieur et ovale à l'intérieur. C'est un honneur pour moi et une joie. C'est impressionnant aussi. Il y a là la solennité d'un rituel pluriséculaire, immuable. Cela est juste. Après tout, vous êtes un immortel maintenant. Je me dois de faire votre éloge, de compter votre vie. Il y aura de la gravité, bien sûr, mais connaissant votre cœur, autant que je le sache, je voudrais qu'il y ait de la légèreté et surtout de la joie. Car vous nous donnez, à nous tous ici et à la multitude, la joie. Je voudrais parler du courage et de l'espérance. Ces deux vertus sont sœurs, laquelle est l'aînée, je ne sais. Peut-être sont-elles jumelles. Comme on relève des empreintes sur une piste dans la jungle, il me faut remonter loin en amont pour retrouver votre trace jusqu'à sa source. La source profonde, Arthus Bertrand, évidemment. Cette vénérable institution familiale, gérée avec une rigueur qu'on pourrait qualifier de janséniste, vieille de plus de deux siècles, qui semble faire partie intégrante de la place Saint-Germain-des-Prés, des artistes, des orfèvres, des bijoutiers, des joailliers, des fabricants de médailles et de décorations. Vous êtes né avec une cuillère en or, non, en argent dans la bouche. Cela oblige. Si je porte aujourd'hui ces deux rangées de décorations, ce qui m'arrive rarement, ce n'est pas par vanité, pour me hausser du col, c'est pour rendre hommage à vos ancêtres, à votre père. Il y a là l'ordre du parasol blanc et du million d'éléphants, du mérite des Sipoksho, de l'Anusara du Cambodge et de l'Issa Malawit, des noms exotiques qui font rêver. Des hochets, bien sûr, comme disait Napoléon. Des hochets qui me sont chers au cœur, si lourds pour moi de joyeux souvenirs de jeunesse, de fierté et de mort. Votre père, qui fut soldat, en sait autant que moi à ce sujet. Avec la guerre, je les avais perdues, détruites quand je fus prisonnier. Où les aurais-je retrouvées, si ce n'est chez vous? Mais revenons à nos moutons. Pardon, revenons à vous. C'est un cliché de dire aujourd'hui que tous les grands artistes ont conservé une âme d'enfant. Un cliché peut cacher une part de vérité. De votre petite enfance, je ne parlerai pas. Vous n'en parlez vous-même jamais. C'est votre trésor, votre bien caché, votre secret. C'est en elle que vous puisez votre courage et ces forces neuves, toujours renouvelées, dont vous avez besoin pour nourrir votre œuvre. J'ai toujours été fasciné par le cheminement, les tâtonnements, par quelle incertitude, par quel concours de circonstances, de hasards, de rencontres fortuites, qui semblent dénuées de sens comme un puzzle dans le désordre. Comment un homme est amené à consacrer sa vie à sa vocation, à son art. Ce n'est pas écrit d'avance. Je ne crois pas au déterminisme. Le destin en gestation est encore noyé dans une sorte de brouillard. Aucun de ces cheminements n'est semblable. Ils sont uniques pour chacun. Nos confrères ici présents, tous des artistes, ne me démentiront pas. Vous avez refermé derrière vous la petite porte de l'enfance. Vous tournez le dos au milieu aisé de la bourgeoisie que vous avez vu naître. Vous jetez votre gourme, laissant vos parents un peu désemparés. Vous êtes un contestataire, un rebelle sans cause. Nous sommes à la fin des années 60. Un regard clair, presque trop intense, une réserve, des silences qui vous donnent l'air farouche. Et puis soudain, un flot de paroles qui déballe comme avec la force d'un torrent. Mai 1968 ne vous comble pas, ne vous épate pas. Vous prenez comme elles viennent la bonne et la mauvaise fortune, les plaies et les bosses. Vous errez dans Paris, vous butinez comme un papillon au vol erratique, incertain. Jeune homme au physique d'acteur de cinéma, vous devenez même acteur, jeune premier, et vous serrez dans vos bras Michel Morgan, le temps d'une scène. Heureux mortel. Non, excusez-moi, heureux immortel. Levez-vous vite, orage, alisez désiré qui devait emporter Yann. En attendant, vous tuez le temps avec une élégance, une désinvolture aristocratique. Aristocratique, le mot est juste. Il vous va parfaitement. On marche, et le temps marche aussi. Jusqu'au jour où l'on découvre devant soi une ligne d'ombre qui vous avertit qu'il va falloir, à son tour, laisser derrière soi la contrée de son adolescence. C'est mon maître, Joseph Conrad, qui nous enseigne cela, la ligne d'ombre. Il est maintenant grand temps pour vous de faire ce premier pas qui est le début d'un long voyage, comme disent les Chinois. À chausser vos semelles de vent et porter votre regard bleu sur les 5 continents et sur les 7 mers, pour rendre le mieux possible justice à l'univers visible, pour découvrir dans ses formes, dans ses couleurs, dans sa lumière et ses ombres, dans les aspects de sa matière, dans les faits mêmes de la vie, ce qui est fondamental, ce qui est durable et essentiel. Une formule me semble bien exprimer votre état d'esprit à cet instant, et jusqu'à aujourd'hui, et demain. Ce que je ne veux pas, je sais. Ce que je veux, je cherche. Je ne cherche pas, je trouve, aurait, paraît-il, dit Picasso. Vous, vous cherchez, et vous trouvez. Vous cherchez encore, et vous trouvez encore. Vous cherchez toujours, et toujours vous trouvez. Par votre constance, votre courage à ne vous laisser jamais détourner ni distraire de votre but, une fois ce but bien défini dans votre esprit. C'est une dame qui va vous prendre par la main pour ce premier pas au-delà de la ligne d'ombre. Votre épouse, Anne. Elle est propriétaire du domaine de chasse de Saint-Augustin dans l'Allier. Vous avez l'idée de créer une réserve animalière. Un zoo suivra. La nature, les animaux, voilà, c'est parti. Une deuxième naissance. Joyeusement, courageusement, sans plus renâcler, vous vous engagez sur une piste vierge. Vous ne savez pas où elle va vous mener, Dieu merci. C'est ça qui est magnifique. Vous me faites penser à un romancier qui, ayant laborieusement rempli sa première page blanche, se demande « Comment vais-je pouvoir arriver à mes fins ?» Vous marchez, un pas, un autre pas, et un autre encore et encore. Le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur, dit René, vicomte de Chateaubriand. C'était un romantique. Vous aussi êtes romantique. Mais vous êtes de surcroît un organisateur, un entrepreneur, un patron. Vous gérez au mieux votre entreprise. La rigueur Artus Bertrand, le vieil héritage familial. Vous n'êtes toujours pas photographe. Patience, j'y viens. Je suis bien forcé, puisque vous êtes assis là, dans votre fauteuil de photographe. 10 ans. Vous passez 10 ans dans votre réserve de Saint-Augustin. Et puis, vous êtes insatisfait. Vous aspirez à... Il vous faut... Oh, que le vent se lève. Vous avez 33 ans, l'âge du Christ, de la résurrection. Vous larguez tout. Vous partez avec Anne et les enfants pour l'Afrique, pour le Kenya, pour les mythiques grands espaces du Maasai Mara. Vous aimez la nature, les bêtes. Vous commencez à les connaître, même les bêtes sauvages, prisonnières de votre zoo. Vous voulez les voir vivre libres, sauvages dans leur territoire sauvage. Vous entrez avec ravissement dans le monde que vous espériez. Vous vous improvisez guide pour Safari Photo, promenant des touristes en mal de sensation. Il faut bien vivre. Naturellement, vous vous mettez à la photo, mais avec le sérieux, la rigueur qui vous caractérise. Vous avez le pressentiment que la photographie est un des moyens d'entrer dans le secret des choses. Le secret des choses, nos confrères de l'Académie des sciences en savent plus. Ils nous disent que notre monde visible n'est qu'illusion, chimère, que ce solide mur, que cette coupole de pierre ne sont que vide et agitation incohérente de particules infinitésimales qui peuvent être simultanément corpuscules et ondes. La vérité, dans l'univers quantique, il n'y a plus de vérité, juste des probabilités. Vertigineux. Mais vous êtes pragmatique, les deux pieds solidement plantés sur notre terre. Vous êtes comme saint Thomas, vous ne croyez qu'à ce que vous pouvez voir et toucher. Que nos yeux soient des instruments incomplets, une lyre où il manque des cordes, comme disait Chateaubriand en parlant du cœur humain. Qu'importe. Ce qu'il nous laisse entrevoir de la splendeur de la création vous comble, vous enchante, vous émerveille. Peut-être que votre regard bleu est une lyre où il manque moins de cordes qu'à nous autres, comme un des mortels. Qui sait ? Saint Thomas, vous allez voir et toucher des gorilles, des éléphants, des lions. Vous les photographiez en plein élan. Arrête-toi, tu es si beau, aurait dit le Faust de Goethe, parlant de cet instant magique qui n'est jamais qu'une fugitive apparition, aussitôt vue qu'évanouie, et que votre photo nous conserve pour l'éternité. Vous passez votre brevet de pilote de montgolfière pour mieux vous approcher et surprendre silencieusement vos proies. Vous êtes fasciné par les lions, comme le fut Joseph Kessel en son temps. Ah, Kessel, un homme selon votre cœur, vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes vertus. La fidélité en amitié, une insatiable curiosité, une écoute attentive des autres, un amour violent de la vie. Et bien sûr, le courage et l'espérance. Sans doute, ne partagez-vous pas son goût immodéré pour les nuits de prince à la russe, la musique tzigane endiablée et sa capacité à croquer, à manger des verres de vodka, en cristal de préférence, ou à les briser sur son crâne pour en réclamer d'autres. Personne n'est parfait et vous êtes un sage. jeune Mowgli du Livre de la Jungle, ou resté 3 ans au Kenya, en Afrique, en la bonne compagnie des zèbres, des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, des crocodiles, des innombrables gnous, et toujours des lions. À bord de votre montgolfière, baladant vos riches touristes, vous rêvez d'être un oiseau. Quel enfant n'a pas rêvé d'être oiseau en regardant le vol des oies sauvages en partance pour des régions inconnues? D'être un petit Nils Holgersson sur les ailes d'Aka de Klepnekaï. Quand Jacques Perrin préparait son film « Le peuple migrateur », il m'a embarqué un jour sur un de ses ULM et j'ai volé au milieu des oies gris cendrées de Sibérie. J'aurais pu les toucher. J'ai été Nils Holgersson. Vous rêviez d'être oiseau, vous l'êtes devenu. Vous l'êtes resté. Dans le parc de votre résidence aujourd'hui, vous avez construit une petite maison dans un chêne tricentenaire, comme un nid d'oiseau pour vos 3 petits qui sont devenus grands. Une maison dans les arbres, un autre rêve d'enfant. Je l'ai déjà dit, vous avez gardé une âme d'enfant. Je vais être obligé d'être oiseau, moi aussi, pour survoler votre vie. Elle est trop riche et le temps qui m'est imparti trop court. Je ne peux que renvoyer succinctement un écho de votre destinée. D'abord, quelques généralités en vrac. Quand on rencontre un homme de qualité, on dit judicieusement « cherchez la femme ». Dans votre cas, elle est toute trouvée, cette âne. Sans elle, vous ne seriez pas tout à fait ce que vous êtes. Vous êtes un père de famille et vos 3 fils grandissent et fleurissent à vos côtés. Homme pressé, vous découvrez la valeur du temps. Vous pouvez passer des heures immobiles, en embuscade, tapis dans un Land Rover ou perché sur un arbre pour obtenir ce que vous cherchez. Vous maîtrisez le temps, toujours pressé pour le trivial, d'une patience infinie pour approcher l'essentiel. Vous êtes un cocktail rare, parfaitement équilibré, de raison et d'émotion. Nul n'interfère sur l'autre. Vous êtes un scientifique, disons, et un artiste. Vous n'êtes pas d'un caractère facile. Vous êtes déterminé, emporté, intransigeant, volontariste, perfectionniste, endurant, exigeant. Vous avez envie de me dire « n'en jetez plus, la cour est pleine ». Non, je déballe tout pour ne plus y revenir. Vous êtes juste, vous avez une équipe de collaborateurs fidèles et vous leur êtes fidèles, comme dans un pack de rugby, l'amitié. Vous êtes un méthodique instinctif, un matérialiste insatisfait, en quête d'une transcendance. Vous avez horreur de la violence gratuite, de la haine, et vous aimez avec violence. Vous rentrez à Paris après 3 ans d'Afrique. Vous publiez votre premier livre, « Les Lions », chez Hervé de la Martinière, un éditeur qui deviendra votre ami. Puis un second livre sur les guerriers Maasai. C'est Anne qui rédige les textes. Vous êtes reconnu comme un photographe majeur, le plus grand sans doute de votre génération. Vous êtes à la mode, vous touchez à tout sauf à la publicité. Paris, Dakar, tournoi de tennis de Roland-Garros, Tour de France, Venise, la Papouasie, la Mongolie, la Cordillère des Andes, etc. Une boulimie joyeuse, comme une légère ivresse. Vous semblez vous disperser, mais vous laissez chaque fois votre marque indélébile, ce qu'on appelle le style, la construction d'une œuvre. Vous avez le don d'ubiquité. Vous êtes là et ailleurs en même temps, comme les atomes de l'univers quantique. Sur un fond de bâche tendue, comme Nadar, il y a plus d'un siècle et demi, vous photographiez les animaux domestiques avec leurs éleveurs, les paysans, à chaque salon de l'agriculture. Très attentif à la rédaction des légendes qui accompagnent la photo, à juste titre. On regarde la photo, on lit la légende, on regarde à nouveau la photo et on voit ce qu'on n'avait pas perçu à la première vision. Vous publiez le livre « Les bestiaux » qui nous fait ressentir les nobles rapports des hommes et des bêtes. Yann, il est maintenant temps de déployer ton vol, d'être l'oiseau que nous attendons. Vous envisagez un projet longuement mûri, complètement fou, démesuré, impossible. La terre vue du ciel, l'état des lieux photographiques de la terre, de notre terre, la planète bleue, comme l'ont vu les astronautes. Yann Arthus Bertrand réussit l'impossible. C'est un chef-d'œuvre, une découverte et une joie pour l'œil et une leçon. Une leçon qui n'est pas assénée à coups de slogans. Une leçon qui est suggérée avec la force de persuasion de l'évidence, de la vérité. Fils, voilà ta terre, notre mère, glorieuse et fragile. Ô fils, vous l'avez rendue malade, ne l'achevez pas. Yann Arthus Bertrand n'est pas le prince Michkin, l'idiot de Dostoïevski. Il ne croit pas que la beauté sauvera le monde. Il sait que demain, la laideur, la pollution humaine, le gaspillage écologique, l'indifférence, l'inconséquence, tous ces multiples cancers vont tuer notre terre. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Demain, oh demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait ? L'homme, aujourd'hui, sème la cause. Demain, Dieu fait mûrir les faits, disait déjà Victor Hugo. En regardant, en lisant la terre vue du ciel, je suis dans l'enchantement, emporté par le mystère de la beauté de la création. Et puis, insidieusement, une sourde angoisse m'étreint. Ce livre est un testament, mais nul demain ne pourra en prendre connaissance parce que l'humanité sera morte avec la terre. Je suis un pessimiste. Je l'étais. Yann Arthus Bertrand ne se veut pas pessimiste. Il a l'espérance chevillée au corps, la petite bougie allumée dans la nuit. Il nous dit que rien n'est perdu, qu'on peut infléchir le destin, qu'on peut sauver notre mère. Nous en avons encore le pouvoir, il faut le vouloir. Il y croit, et je veux y croire aussi. Il a ébranlé mon pessimisme, le mien, le vôtre. J'aurais tant de choses à vous dire encore. Votre film, 6 milliards d'autres, cette vieille femme marquée par la vie, d'une ethnie du bout du monde, à qui vous demandez « Pouvez-vous pardonner ?» et qui répond sans hésiter « Oui, sinon qui me pardonnera ?» Tant de choses encore. Votre œuvre me met en joie, me donne envie de rire, d'éclater d'un rire de pure joie. Merci. Bienvenue à bord. Je parle comme un marin. Bienvenue dans notre compagnie, Monsieur Arthus Bertrand, mon cher confrère et ami.
Vous pouvez écouter et télécharger librement l'intégralité de cette séance de l'Académie des Beaux-Arts sur le site de Canal Académie, canalacademie.com, en tapant dans « Rechercher » le mot-clé « Yann Arthus Bertrand ». Vous pouvez aussi consulter la fiche de Pierre Schoendorfer sur le site de l'Académie des Beaux-Arts.